Vous écoutez
RMC.
Mercredi 28 septembre,
l'info sur RMC.
Très belle journée à vous tous, il est 8h sur RMC et RMC Story, l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La Bretagne à sec, pas assez de pluie cet été, les réserves d'eau potable ne tiendront pas plus d'un mois et demi. 4300 lits supprimés dans les hôpitaux en 2021. Premier bilan ce matin pour Emmanuel Macron, c'est deux fois plus que sous François Hollande, mais nettement moins que sous Nicolas Sarkozy. Décryptage dans un instant. La réforme des retraites lancée en janvier, nouvelle option signée. Emmanuel Macron, nouvelle parade aussi pour convaincre l'ensemble de la majorité.
La Bretagne pourrait bientôt être privée d'eau potable.
Et oui, même la Bretagne subit la sécheresse, même fin septembre. Les autorités alertent sur un risque sérieux de coupure dans les Côtes d'Armor. Écoutez bien, il ne resterait qu'un mois et demi de réserve. Pas le choix, il faut fermer le robinet, Lucie Rispal.
Dans la réserve d'eau du Val, le niveau est au plus bas et la pluie qui tombe n'y changera rien. Selon Elvis Deniol, coordinateur des bassins versants de Dinan, la situation est inédite.
Quasiment un mètre d'eau en moins par rapport à la normale. On peut facilement observer une situation très critique actuellement sur le territoire qui équivaut à une situation où il nous manquerait quasiment un mois d'eau en fait disponible pour la population.
Dans le centre de Dinan, Maëlle, commerçante, prend bien conscience de cette sécheresse, alors elle modifie ses habitudes domestiques.
Moins de machines à laver, on fait attention à la douche. Au niveau du temps de douche. Pour rincer la vaisselle, l'eau de rinçage, on l'a fini dans les fleurs.
Il ne reste que 10 semaines de réserve en eau dans la ville, de quoi inquiéter le président de l'agglomération, Arnaud Lécuyer.
Pour les habitants, ça peut conduire notamment sur des réductions de débit, des fermetures administratives, des fermetures temporaires de services.
Selon la préfecture, une personne qui adopte des gestes économiques peut réduire sa consommation de 15 litres par jour.
L'eau qui se fait rare en Bretagne, reportage à Dinan signé Lucie Respal pour RMC. Et la Bretagne n'est pas la seule d'ailleurs en France. Notez qu'en cette fin septembre, les trois quarts des départements français sont toujours au niveau d'alerte maximale pour économiser l'eau. On en vient à la situation de l'hôpital public. Situation dégradée, on le savait, on a maintenant les chiffres ce matin du ministère de la Santé. Le bilan précis du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonjour Romain Houg.
Bonjour.
Le nombre de lits supprimés a fortement augmenté en 2021.
Oui, entre le Covid et les difficultés à trouver du personnel, 4316 lits ont fermé l'année dernière. Et si l'on fait les comptes, depuis fin 2016, ce sont 21 000 lits supprimés en majeure partie sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, soit deux fois plus que sous son prédécesseur François Hollande. Ça reste tout de même nettement moins que sous le mandat de Nicolas Sarkozy qui avait vu la fermeture de 37 000 lits d'hospitalisation. Ces chiffres, ils montrent bien que les gouvernements se succèdent, mais qu'une tendance, elle, demeure, c'est la tendance à la suppression de lits fixes au profit des places d'hospitalisation dites de jour sans nuit à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le virage ambulatoire. Ainsi, plus de 2700 places de jour ont été ouvertes l'année dernière, ce qui porte le total à plus de 9000 depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Merci Romain. La santé, l'accès aux soins, grand défi du gouvernement pour ces 5 prochaines années, comme la réforme des retraites. Depuis la rentrée, la majorité divisée a du mal à avancer. On hésite, quand la lancer, comment ? Mais tout pourrait changer dès ce soir lors d'un dîner de la majorité avec Emmanuel Macron qui reçoit les poids lourds à l'Élysée. Pierrick Bonneau, le gouvernement a peut-être trouvé la parade pour mettre tout le monde d'accord.
Oui, une troisième voie. Pas un amendement dans le texte sur le budget de la sécurité sociale qui vient d'être présenté. Pas un projet de loi à part entière dans les mois qui viennent. Mais l'exécutif pourrait finalement décider d'introduire cette réforme dans un budget rectificatif en janvier. Alors c'est assez technique, mais ça permettrait au gouvernement de temporiser, de montrer que les critiques ont été entendues et en même temps de se garder l'option du 49-3 en cas de blocage. Une piste sérieuse, nous dit l'Élysée, acceptable selon un élu du Modem. On sait que François Bayrou est farouchement opposé à un amendement dès maintenant. Cette solution permettrait peut-être de mettre d'accord le président et son haut commissaire au plan, en attendant un déplacement d'Emmanuel Macron un vendredi à Pau, sur les terres de François Bayrou.
Pierrick Bonneau du service politique d'RMC, merci beaucoup. Il y a une semaine, une fillette de 3 ans était oubliée 3 heures dans un bus scolaire. Ça s'est passé à Tombes en Seine-et-Marne, une matinée complètement traumatisante. Du coup, ses parents ont décidé de porter plainte contre X. Le père d'Ambre s'explique ce matin sur RMC.
On imaginait que Ambre ne garderait pas de séquelles post-traumatiques. mais on l'a vu complètement changer cette semaine. J'ai même été interpellé par des amis de la famille qui m'ont quelque part même incriminé en me disant que ce serait assimilé à de la non-assistance à personne en danger sur la personne de ma fille si je ne portais pas plainte. Et le deuxième souhait, c'est que toutes les personnes impliquées dans cette situation prennent conscience qu'on ne transporte pas du bétail.
L'affaire Péchier, du nom de cet anesthésiste de Besançon, soupçonné d'empoisonnement. Le nombre de ses potentielles victimes s'alourdit encore un peu plus. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 13 mortels, la justice s'intéresse à 8 nouveaux cas suspects.
Et puis ce matin, les 2600 salariés de Camaïeu qui retiennent leur souffle.
Plan de continuation, liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Lille tranche aujourd'hui. La marque de vêtements en crise, énième illustration d'un secteur en très grande difficulté, Vincent Chevalier.
Camaïeu, comme ses concurrents, subissent les changements dans les comportements. Les consommateurs sont devenus plus regardants.
On est quand même poussé à la consommation dans ces boutiques-là, par exemple. Les articles sont renouvelés très très fréquemment. Hein.
Comme j'en achète moins souvent, j'ai une petite tendance à dire, allez, on se fait un peu plaisir.
On essaye de se débrouiller, qu'est-ce qu'on a à la maison, et après juste ce qu'il faut.
Caroline a également revu son shopping. Elle achète sur internet pour faire des économies.
Niveau qualité, c'est pas top, mais au niveau prix, c'est génial et les salaires augmentent pas forcément en fonction du coût de la vie.
Des grandes enseignes qui ont aussi parfois du mal à répondre à la demande de clients en recherche d'une consommation plus durable.
Peut-être pas jusqu'à aller jusqu'à l'empreinte carbone, mais il a conscience un petit peu de ce qu'il a envie d'acheter.
Jean-Sébastien Veilleux, président de la Fédération nationale de l'habillement en Auvergne-Rhône-Alpes.
La seconde main, ça fait partie aussi d'une demande des consommateurs et certains gros groupes ont très bien su s'y mettre, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dire ici que les grands groupes ne font pas du bon travail. Certains font du très bon travail, mais d'autres n'ont pas su s'adapter.
Entre le premier semestre 2019 et celui de 2022, les ventes ont baissé de 9%, moins 5% pour le chiffre d'affaires global des enseignes.
Vincent Chevalier pour RMC. À l'international, la Russie encore un peu plus isolée ce matin. Même la Chine ne reconnaît pas les référendums d'annexion en Ukraine. Sans surprise, c'est le oui qui a gagné massivement dans 4 régions pro-russes. Le foot pour terminer avec ce match amical très tendu hier au Parc des Princes. Brésil-Tunisie, l'hymne brésilien a été sifflé, des lasers ont perturbé les joueurs et puis il y a aussi eu cet acte raciste, un joueur visé par un jet de banane. La fête, on peut le dire, a été gâchée, mais n'oublions pas quand même le beau score des Brésiliens. Victoire 5-1 face à la Tunisie.
C'était le journal de Marguerite Dumont. Il est 8h07 et je voudrais qu'on fasse un petit coucou particulier pour vous dire que la famille des locales, des antennes locales de BFM s'agrandit aujourd'hui. C'est le grand lancement de BFM Normandie, 10e chaîne du groupe BFM, des chaînes locales BFM. Bienvenue à BFM Normandie donc et salut à tous les Normands. Il est 8h08.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des députés PS, LFI ou Renaissance doivent-ils jouer au foot ensemble sous le même maillot avec le RN? La question est très politique à quelques heures d'un match caritatif. Réponse du capitaine de l'équipe de l'Assemblée nationale, le député Renaissance Carl Olive. C'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 sur RMC.
Le parti pris.
Et le parti pris, c'est avec vous, Carl Olive. Bonjour.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Vous êtes députée Renaissance du département des Yvelines et c'est vous le grand organisateur du match de foot. Vous êtes capitaine de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale et cette question qui visiblement divise ce matin, mais la seule personne qui pourra nous dire si le match va avoir lieu ou pas, c'est de savoir s'il faut ou non que les députés des différents groupes acceptent de jouer en équipe avec les députés du RN. Alors vous ferez quoi? Vous allez jouer avec eux ou pas?
Alors, l'un des organisateurs et l'un des trois capitaines, avec notamment Pierre-Yves Dumont, LLR, et puis Marietta de la gauche. D'abord, ce que je dois dire, c'est que moi, je viens du sport en général et du football en particulier. J'ai été dirigeant, président, joueur, arbitre. Je fais partie de la Ligue de football professionnel. Et voyez-vous, je me suis toujours battu pour que la politique reste à l'entrée du stade et qu'on vienne certainement pas immiscer la politique dans ce sport formidable. Et c'est le message que je veux faire passer. les étiquettes politiques doivent rester dans le short. Ce soir, en nous jouant pour la bonne cause, Apolline de Malherbe, le match aura lieu. Coup d'envoi à 18h30. Permettez-moi de faire un petit peu de promo.
Stade Émile-Antoine,
Paris 15e, au pied de la Tour Eiffel, au profit d'une association formidable, e-enfance, qui lutte contre le cyberharcèlement pour les jeunes, et notamment ces jeunes qui parfois vont jusqu'au suicide. Donc vous voyez, c'est pour la noble cause. Et quand je vois que du jour au lendemain, et pour tout vous dire, ça fait un mois et demi que les uns et les autres savent, toute sensibilité politique confondue, qu'il y a cette rencontre.
C'est une tradition, il faut quand même redire les choses aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Hein, c'est une tradition que les députés jouent ensemble au foot, et en l'occurrence pour des associations caritatives.
Apolline, je me permets de dire, au foot comme au rugby, hein, il y a un 15 parlementaire qui est une formidable équipe également, d'ailleurs dans laquelle on retrouve des joueurs, des piliers de l'Assemblée, de LFI, comme du Rassemblement National. Ça pose pas de problème, enfin, ça posait pas de problème jusqu'il y a encore quelques mois. Et puis, depuis 48 heures, patatrac, les mêmes qui, il y a encore 72 heures, disaient pas de problème, découvrent qu'ils vont jouer potentiellement avec des collègues qui ne font pas partie de leur sensibilité politique. Mmh. Et là, ils disent pas de ça. Moi, je ne réponds pas au diktat. Je ne réponds pas au diktat de la France insoumise. Parce que répondre à ce diktat, eh bien, ça a divers enjeux. Ça fait d'abord monter le Front National, et je pense que c'est absolument pas l'objectif. On est dans une noble cause de sport. Et je vais vous dire quelque chose. Qui, aujourd'hui, a la légitimité de dire quel serait le camp du bien, le camp du mal? Qui devrait pouvoir jouer? Alors, la semaine prochaine ou dans 15 jours, la prochaine rencontre, il faudra nous demander aussi les religions. Non, mais où va-t-on? On marche sur la tête. Pour une fois que nous avions une image bienveillante à montrer de l'Assemblée nationale, et Dieu sait si on n'a pas toujours montré l'exemple jusqu'à présent, parfois cette caisse de résonance, eh bien non, on vient encore politiser l'événement.
Ouais, sauf que Karl Olive, alors moi je veux bien, hein, c'est vrai que les premiers à avoir dit qu'ils boycotteraient ce match, ce sont les députés LFI qui ont dit nous non, il n'est pas question que nous jouions.
Mais enfin
il y a aussi votre patronne de groupe, vous dites moi je veux pas me faire dicter par les députés LFI quel serait le camp du bien et du mal. Mais enfin, je cite Aurore Berger, qui est donc la chef de votre groupe, le groupe auquel vous appartenez, les députés macronistes et députés Renaissance, qui a demandé, recommandé, je cite, à ses troupes de ne pas participer à un match qui donne lieu à une photo d'équipe. Nous ne jouerons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche, a-t-elle écrit dans un message qui vous était adressé hier. Donc c'est aussi à elle que vous dites, bah écoutez, restez un peu en dehors de cette question-là, quoi.
Non, d'abord, on va recamper le décor. Moi, j'ai effectivement appris cette nouvelle en voiture par un de vos collègues journalistes. Moi, je suis souvent d'accord avec Aurore Berger. Elle recommande, c'est la position personnelle de la présidente du groupe, et je trouve que dans ce mouvement de la majorité présidentielle, on n'est pas tous d'accord tout le temps, et c'est ce qui, je crois, en fait sa force dans ce qu'on appelle le grand dépassement. Je suis pas d'accord avec cette lecture. Ce soir, il y aura un certain nombre de députés Renaissance qui joueront, parce que on veut pas perdre l'objectif. L'objectif, c'est pour la noble cause, qui plus est. Vous avez des organisateurs, vous avez des sponsors, des partenaires, la location du terrain, tout l'avant-match, l'après-match, les équipements, tout ça a été préparé depuis longs mois, et pour répondre à un diktat subi 24 heures auparavant d'un parti politique de la France insoumise,
mais
il faudrait.
Mais c'est vrai que ces moments,
on n'est pas des paillassons.
Ouais, vous n'êtes pas des paillassons, ça j'ai bien compris. Vous refusez absolument ce matin de devoir donner les bons et les mauvais points et de dire bah oui, il y a ceux avec qui on pourrait jouer ou pas.
Apolline de Malherbe, c'est le combat d'une vie. Quand on fait du sport, on lutte contre les homophobies, on lutte contre le racisme, on lutte justement contre tous ces hommes et femmes politiques qui veulent venir gangréner, polluer le sport qui fait la force dans notre pays, pour lequel nous sommes champions du monde. C'est inadmissible. Et moi, je veux lutter contre ça. Si ce soir, malheureusement, mais ça ne sera pas le cas, il y aura match, coup d'envoi 18h30. Il n'est pas une match, eh bien, je peux vous dire, c'est la fin de l'équipe de football de l'Assemblée, c'est la fin du 15 parlementaire. Et comme vous le dites, c'est des équipes qui jouent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, j'ai joué 14 fois avec le Variété Club de France contre l'équipe parlementaire de football de l'Assemblée à l'époque où j'étais journaliste. Il n'y a jamais eu aucun problème. On a récolté 900 000 euros avec l'équipe de Jacques Vendroux depuis des années. Je pense qu'il faut vraiment, je dirais, recentraliser ce que nous devons faire. Je n'ai aucune sympathie, encore une fois, ni pour LFI, ni pour le Rassemblement National, mais comme les 577 députés de cette Assemblée, ils ont été élus démocratiquement. Et c'est justement en les affrontant projet contre projet sur les bancs de l'Assemblée qu'il ne faut qu'on ne les banalise pas, et ce serait le cas contraire si ce soir on interdisait aux uns aux autres de pouvoir jouer.
De pouvoir jouer.
Quelle légitimité moi je peux avoir comme les autres pouvaient avoir. Je vais vous dire, hein, je suis beaucoup plus énervé et me le rende bien avec l'attitude de la France insoumise actuellement sur les bancs de l'Assemblée que tout autre parti politique.
Eh bien, Carl Olive s'est dit ce matin député Renaissance du département des Yvelines, capitaine donc de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale, qui jouera bien ce soir. Vous nous le confirmez ce matin sur RMC. Il y aura match et il y aura coup d'envoi à 18h30. Merci d'avoir défendu votre point de vue sur RMC. Il est 8h18.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche avec Arnaud de Manche qui arrive en chemise hawaïenne, on peut dire ça.
Mais oui.
Lunettes de soleil.
Mais oui, j'ai fait une petite tenue estivale parce que ça y est, nous les artistes, on a gagné au loto. Alors quelqu'un veut du champagne, hein? Ça branche quelqu'un, une petite virée à Hawaï, ouais. Apolline.
Ouais. Pourquoi? Parce que vous faites allusion à la hausse du budget de la culture.
Ben oui, quand même, 271 millions de plus, on est monté à 4 milliards de Il pleut du fric.
Sur les
arrive
artistes.
L'économiste.
Ah bah il y a Emmanuel Le Chip qui arrive sur l'argent.
4 milliards de je viens de pendre. 4 milliards de.
Excuse-moi, j'étais coincé dans l'ascenseur.
Hausse du budget de la culture. 4 milliards d'euros. On en parlait hier avec Charles, on sait même pas ce qu'on va faire de tout ce pognon. Lui, il hésitait à se payer un diabolo en or massif pour sa saison d'été. Il y a plus de budget pour la culture. On n'avait pas vu ça depuis 1673 et la dernière pièce de Molière. Avec ce fric, mais des chiffres et des lettres vont pouvoir réengager Bertrand et Ariel. Ça va être formidable. Moi-même, j'ai une idée. On déménage RMC au Japon. Comme ça, avec le décalage horaire, on peut se lever à midi tous les jours pour faire la matinale.
C'est
génial. On va avoir de quoi faire des projets culturels hyper ambitieux. Vous savez, j'en discutais hier avec un copain, Dominique Besnéard, qui me disait « Cet argent, ça va faire du bien. » Parce que j'ai rencontré hier une réalisatrice incroyable, magnifique, qui m'a présenté un projet. On est dans le blockbuster français. C'est Adèle Exarchopoulos. Elle est SDF par choix, elle est cassée par la vie. Et elle braque un Shopee à Montfermeil, tenu par Mathieu Kassovitz. C'est un ancien alcoolique qui se fait régulièrement racketter par une bande de jeunes voyous déscolarisés. Ils n'ont que 12 ans, mais ils ont déjà tous été condamnés pour meurtre. Mais Kassovitz a lui-même volé un vélo à un camarade à Champigny-sur-Marne quand il avait 20 ans, donc il se dit qu'il vaut pas mieux. Lors du braquage, elle tombe sur les gamins, ils fuient tous ensemble, mais elle est arrêtée par un policier de la BAC de Créteil. C'est Gilles Lelouch, il est très musclé, impulsif et violent, père célibataire,
bien sûr,
qui sniffe de la colle dans les locaux de la SRPJ et qui dit tout le temps « Tu la connais pas, la réalité du terrain ?» Et Gilles Lelouch, c'est le frère d'Adèle Exarchopoulos. Je vous raconte pas la scène de garde à vue. C'est 57 minutes, en muet, tout va passer par le regard, sur fond d'explosion des banlieues françaises, pendant laquelle on comprend qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Ça s'appelle « Sous les parpaings, la République ». Et le scénario est quand même signé par Assa Traoré, donc ça promet du spectacle. Alors sinon, tiens, en parlant de cinéma, vous avez vu, Gad Elmaleh sort un film.
Oui.
Dont le sujet est Gad Elmaleh, réalisé par Gad Elmaleh, interprété par Gad Elmaleh. En fait, le seul truc qui ne sera pas de Gad Elmaleh dans le film, ça va être les vagues. De faire des copains aujourd'hui.
C'est clair.
Je suis à l'abri.
Arnaud, on va parler aussi des référendums. On va parler des référendums d'annexion organisés par la Russie dans certaines régions ukrainiennes. Le oui est devant avec 99% des voix.
Oh bah comme par hasard.
Oh bah
dis donc, ça marche bien la démocratie à la russe. Tu bombardes une région, tu fais fuir les opposants, tu fais voter ceux qui restent en les menaçant et boum, 99%. C'est comme si Miss France était présentée depuis Paris et ce soir, seuls les électeurs de Paris peuvent voter. Alors la gagnante est... Suspense, suspense, Miss Paris,
oui.
Même les Chinois n'ont pas reconnu le résultat des référendums. C'est-à-dire que quand les Chinois commencent à te donner des leçons de démocratie...
C'est que ça va.
Alors vous avez vu aussi, il y a de plus en plus de Russes qui fuient la Russie. C'est-à-dire que la Russie, c'est peut-être le premier pays de l'histoire où les gens fuient pas parce qu'ils sont envahis, mais parce qu'ils envahissent quelqu'un. C'est-à-dire que ça devient n'importe quoi là-bas.
Arnaud, l'association Negawatt pense qu'il est possible de baisser de 10% notre consommation d'énergie.
Oui, je l'ai entendu ce matin chez notre cher Charles. Alors, il y a des petits gestes simples à faire, comme faire pipi sous la douche en faisant la vaisselle.
Oui.
Dans l'ordre.
La coordination, c'est...
Ou pédaler pour faire marcher sa télé. Mais la meilleure solution nous vient de Bruno Le Maire. Lui, il a la bonne combine. Écoutez.
Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Donc, vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé.
Paf! Les pulls l'hiver, dites donc. Oh là là. Et nous, comme des cons, on n'y avait pas pensé. Alors, je vous en ai ramené un, que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que manifestement, les Français ne connaissent pas.
Ah, donc, vous êtes venu avec un pull?
Un peu comme un t-shirt, mais avec les manches plus longues. Et il y a ce prolongement au niveau du cou, Jamy, qui permet de conserver la chaleur, Jamy. Et alors, dites-nous, Bruno Le Maire, que faire pour lutter contre la faim?
Eh bien, la meilleure astuce, c'est de la nourriture. Oh là là.
Et pour lutter contre les inégalités,
on va faire des trous dans la poche des riches.
Non, mais quand même. Alors après, chacun ses petites astuces, hein, chacun ses petits trucs. Regardez Charles Magnin, qui a vécu dans un squat sans chauffage jusqu'à ses 30 ans. Et il n'avait que deux solutions. Le jour, les pulls, ça, il avait trouvé. Et la nuit, se réchauffer en se couvrant avec des femmes nues. Oui. Alors ça, il le fait toujours. Hein, d'autant plus que maintenant, la pilule du lendemain est gratuite. Oui. Donc vous êtes une leçon pour nous tous, Charles.
Fort et
merci
plaisir
de partager. Allez, à demain.
Chacun ses petits gestes. Oui. Arnaud, demain. Mesdames, messieurs,
chaque
nous retrouvons chaque matin à 7h20 et 8h20 sur RMC. Il est 8h24 et donc sans transition, nous passons à la politique. Mon invité, je ne sais pas s'il sera en col roulé, mais c'est David Lisnard. Il est maire de Cannes et il est surtout président de tous les maires de France. Et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.